Soyez bienvenus avec les locations de Guy Morgan, Guignan, Guillermo, Guignan, Guy Bassio, Daniel Morin et nos invités Mélanie Thierry et Félix Moix.
Ah oui,
bravo. Je dis bravo.
Avec moi, je dis bravo. Et en effet, déjà, bravo d'avance pour ce très bon film qu'il vient de nous présenter, La Vraie Famille, qui sortira
demain.
Déjà, un dodo et ça sort, tu veux
ouais,
dire
demain.
Oh, une vitesse.
Ouais, ouais,
ça défile.
Mardi, hein,
on est déjà fin de saison. Tu veux
Et plus on est vieux, plus ça va vite.
Ah oui.
Parce qu'après, on voit les enfants grandir.
Et ça, c'est bien envoyé.
Voilà. Ah non, c'est vrai. Bah, je parle pour moi, là, en l'occurrence.
Ouais, pour moi, t'imagines.
Nous allons jouer. Alors, je n'ai aucune main sur rien. Tout,
ah,
voilà,
c'est
magique.
C'est ta réputation, ouais.
Ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Mais
tu peux nous chanter.
On va se débrouiller. Essayer de retrouver ce titre.
J'étais pas le même.
Leïla.
Oui.
Vianney.
Oui.
Ouais, je suis passé à côté de Vianney, moi.
C'est un échec, Daniel.
Ouais. Kata.
Pour de vrai.
360. Tout ce que
j'aime. Donc vous avez compris le thème ou pas?
Non, pas encore. Mais ça va venir.
Le film s'appelle La Vraie Famille et la chanson s'appelle Pour de vrai. Il y a pas un truc qui vous sonne aux oreilles?
Peut-être,
non,
vrai.
Ah, peut-être.
Peut-être.
Qui chante ça?
Tanguy.
Morgan.
Daniel.
Non,
Guy. C'est Daniel.
Non, c'est Guy.
Ah,
bien sûr. Dis.
C'est seulement.
Non.
Piano. Tanguy.
True.
Oui.
Spandau Ballet. Mais il faut dire le nom.
Là, on est sur vrai.
Non.
True. Il y a des droits d'auteur là-dessus. C'est bon, non?
Mais c'est normal, c'est tellement bon.
Donc je rappelle que true pourrait se traduire par
vrai.
Qui chante ça?
Bébé veut qu'on fasse du vrai sexe.
Je sais pas, mais c'est génial.
C'est Morgan?
Non.
C'est toi?
Pour que je parle de mes. Qu'est-ce que c'est que ça? Bébé veut qu'on fasse du vrai sexe. Ouais, c'est ça.
Tanguy? Oui. Colonel Rayel?
Non.
C'est un mec plus drôle que ça. Pour que
je
parle dans mes
textes.
C'est
un chanteur?
Oui. Madame est sans complexe, madame est sans tabou. Elle fait des folies, parfois elle me pousse à bout.
Max Boublil?
Je crois que je n'ai pas la voix.
Français?
Français.
Non, c'est Kanye West.
Merci Daniel.
Il est vraiment partout.
C'est pas un groupe, c'est un mec seul qui a fait un énorme succès en faisant une chanson autour de Valérie Beg.
De Valérie Beg?
Ouais.
Kinvey?
Oui.
Waouh, ok, Morgan, Kinvey. Okay. Ah, c'était au tournée?
Il a fait une chanson sur Valérie Beck.
Alors, cette chanson, Vrai Sexe, n'est pas pour
oui,
Valérie Beck.
Oui, mais mademoiselle Valérie.
Mais j'aimerais bien qu'elle m'aime.
Ah, c'était elle?
Mais oui, c'était
elle. Ah, pardon.
Dit, moi, j'aime bien tes photos, on s'en fout de la dame au chapeau et ainsi de suite.
Ah, pardon, je croyais que c'était une Valérie de France, peu importe.
Vous n'écoutez pas assez les paroles des chansons.
Et Kinvey en général.
De Kinvey, non.
Et Kinvey en général. Mais tu sais,
en particulier.
Il est extrêmement drôle et très sympa.
Mais j'ai pas connu ça.
Ah bah méga sympa. Hein.
Qui chante ça?
Tanguy, Cyndi Lauper, True Colors.
Joli. Le
coin des dents.
Elle avait une voix dingue.
Ouais.
Pourquoi c'est arrêté? Guillermo, pourquoi c'est arrêté Cyndi?
Elle chante toujours. Ah bon, elle a sorti un album de country l'année dernière.
C'est vrai?
Et c'est toujours aussi bien. Par contre, elle s'est un peu remise sur la country. Ouais. Mise sur la country. Mais c'est bien quand même.
Qu'est-ce que c'était bien ça?
Elle a toujours les cheveux de couleur.
Qui chantait ça?
Leïla.
Oui.
Madonna.
Joli.
Bravo. Ça aussi c'est bon, hein. C'est quasiment la
Qu'est-ce
même
qu'elle
année.
Qu'est-ce qu'elle devient?
Alors,
Album de country.
Elle devient un peu folle, hein. Je sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais elle a des problèmes psychologiques.
J'adore
que
ça soit Tanguy qui passe des trucs people.
Oh non, elle pose un peu, disons, dans des postures incroyables sur son lit, mais elle garde une certaine souplesse quand même à son âge. Une souplesse extrême.
Non mais Tanguy, tu sais que tu te révèles là.
Non mais parfois elle arrive.
Il y a un nouvel emploi pour toi.
Non mais c'est pas ça, c'est surtout un Instagrammeur maintenant Tanguy.
Ah mais totalement. Elle arrive à se mettre la tête à l'intérieur d'elle-même. C'est une boule anti-stress en fait au final.
Arrête, tu fais rêver Guillermo.
J'ai connu Notary qui faisait ça.
Oui, moi aussi.
Parce que je peux te dire que lui s'est entraîné pour y arriver.
Oh regarde, ça y est.
Et je crois qu'il a réussi vu sa tête là.
Je retiens tout mais je me concentre pour la prochaine parce que là pour le moment je suis à zéro.
Qui chantait ça?
Morgan, Adèle.
Non.
Daniel.
Ça aurait été beau, là.
Musique de Bandit Café.
Non. C'est un rapport avec True.
Mais parce que la vérité est dans le café.
Attends, c'est qui? Colin True.
Non.
C'est français?
Oui.
Ah, la vérité si je mens.
Morgan, Jean-Jacques Goldman.
Non.
Morgan, Jean-Jacques Goldman, on a l'impression que vous faites un duo.
C'est pas un artiste ou une artiste seule.
Ah, la compagnie créole.
Non.
C'est pas forcément
période noire. Pas un, ça veut pas dire 15, tu vois, ça peut être.
Morgan, heureusement que toi qui fais la vanne de la période noire sur la compagnie créole. Hein. Sinon,
j'ai
là,
même pas fait exprès.
On avait le hashtag. Hein.
Ah oui, 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 Leïla, Leïla.
Moi, la squad.
Non, non. Pardon.
Leïla, Big Flo et Oli.
Oui.
Bravo. C'est inévitable, non, c'est du kick, ça, c'est inévitable, c'est du véritable son. Oui, oui, inévitable, jusqu'à la victoire, ce n'est pas qu'une passion. Non, un avantage amical, soutien médical, je suis en méditation.
Ouh, ça va vite, hein.
Alors, attention, 3 points pour Leïla, 1 pour Daniel, 1 pour Morgan, 1 pour Tanguy. Il y a forcément vrai dans le titre.
C'est la...
C'est le Super Banco.
Leïla.
Oui.
Jean-Jacques Goldman.
Hein? Ça, Jean-Jacques Goldman.
Ouais.
C'est ça.
Ah si, parce
c'est
que,
ça, tu sais non, mais je le connais par cœur.
Parce
ça.
Que quand t'as dit Jean-Jacques Goldman tout à l'heure, t'as marqué un temps d'arrêt, donc je me suis dit, est-ce qu'un titre c'est le Super Banco? Allez, victoire de Cadour.
Jean-Jacques Goldman.
Waouh. C'est pas bravo.
Bravo Jean-Jacques. Merci d'accueillir pour nos invités, Mélanie. Thierry et Serge
Watt. Félix.
Ah,
c'est le professionnel.
On l'appelle le professionnel.
Serge Malti et Thierry Roland. Bienvenue.
C'est l'âge. 10
ans de psychanalyse en plus.
C'est l'âge. C'est l'âge. Comment ça 10 ans de psychanalyse? Non, c'est démission totale de l'animateur, c'est tout, on n'en parle plus. Manque de professionnalisme. Mélanie Thierry, Félix Moati et Lies Salem sont à l'affiche de ce superbe film La Vraie Famille, tellement bouleversant. Merci déjà d'être à ce micro, Mélanie. Merci Félix. Ce film, évidemment, il y a entre guillemets les adultes qui en sont les acteurs principaux, mais il y a surtout ces enfants qui sont totalement bouleversants. Je vous demandais d'ailleurs avant quel était exactement l'âge du petit Simon. On m'avait dit 7 ans, c'est ça, au moment
du tournage. 6 ans au moment du tournage.
Wow,
Gabriel Pavy.
Bouleversant, bouleversant ce gamin. L'histoire donc d'une famille que vous constituez, Mélanie et Elias Salem. Tous les deux, vous êtes papa et maman de deux enfants qui accueillent un troisième enfant qui s'appelle Simon, qui a été pris, retiré, enlevé. La formule est importante, mais on va voir justement quel est le mot exact. À vous, Félix Moati, qui êtes son papa après le deuil de sa maman. Le juge a estimé que vous n'étiez pas assez responsable pour garder l'enfant seul.
Ouais, le juge a estimé ça et je pense que je l'ai estimé moi-même. C'est-à-dire que j'étais dans une incapacité totale de m'occuper de cet enfant.
Après le deuil
le deuil de ma femme, ouais. Donc qui on suppose qu'elle est morte, qu'elle est morte juste après la naissance de l'enfant, et donc je me retrouve dans l'incapacité totale de m'en occuper. Et pour le bien de mon petit, je pense avec les services sociaux, on estime qu'il est bon
de
le placer dans une famille d'accueil.
Et pour le bien du petit, la question aussi est de savoir est-ce que c'est bien que lorsque le papa se sent à nouveau solide et prêt à accueillir l'enfant, est-ce que c'est bien qu'il retourne vers son père naturel? Et là arrive la problématique de la famille d'accueil, c'est-à-dire d'avoir vécu et de l'avoir vu grandir dans une fratrie en plus avec la complicité frère et sœur et de voir ce lien s'arrêter du jour au lendemain. C'est toute l'intrigue entre guillemets de la vraie famille.
C'est qu'on mesure pas l'attachement sentimental qui va se lier entre cet enfant et le reste de la famille et cette fratrie et avec cette femme qu'il considère comme sa maman. Donc forcément, c'est une mission, elle doit prendre fin à un moment donné, parce que l'ordre des choses, c'est que l'enfant retourne à son père. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est déchirant de devoir s'en séparer, parce que tout d'un coup, c'est comme retirer un membre de la famille à un équilibre et à un cocon, où en plus, on place le film dans une famille comme ça, unie et harmonieuse, et qui partage des souvenirs merveilleux, et c'est du pur présent, et à la fois c'est déjà la fin. On a l'impression que c'est les dernières fois qu'ils vivent ces choses-là.
Oui, et en même temps, c'est la première fois que cette famille accueille un enfant. Je crois que c'est dit dans le film, mais c'est assez important parce que c'est pas non plus, un métier auquel le personnage de Lies Salem et le vôtre est déjà habitué. C'est pas, bon, on accueille un enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, merci, au revoir, on en accueille un autre et ainsi de suite. Non, elle est pas dans cette routine-là, cette famille. C'est la première fois qu'elle accueille un enfant, et il y a un attachement qui est extrêmement fort. Peut-être aussi parce que c'est la première fois.
C'est-à-dire que oui, elle s'est dit pourquoi pas moi. Après tout, son métier dans la vie devait peut-être l'emmerder. Elle s'est dit mais ce serait tellement formidable d'accueillir un enfant. Moi, ça me permettrait à côté d'avoir du temps pour les autres gosses et puis pour ma vie. Et puis avec de fil en aiguille, c'est vrai que l'attachement, il est important quoi. Ouais.
Et ça devient sans aller jusqu'à la compétition, Félix Moati, il y a des rapports et même des regards d'ailleurs entre vous au moment où on va pas tout dévoiler dans le film évidemment parce qu'il y a quelques rebondissements et puis surtout il y a une montée dramatique est absolument bouleversante, prenante et émouvante. Mais il y a des regards où on se demande ce que pense le père de cette famille d'accueil, de cette famille de substitution, de l'avoir remplacé. C'est pas tant merci de l'avoir remplacé, c'est
il y a un sentiment de dépossession.
Ouais,
un peu.
Il vous aime peut-être. Il y a presque une compétition d'amour entre les.
Clairement. Et puis on comprend très vite qu'en fait les adultes se disputent cet enfant. Et puis finalement. C'est toute la grâce du film, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de, d'antagonisme. C'est-à-dire que on pourrait supposer que le père s'en est mal occupé, alors que c'est pas le cas. Il en était juste incapable. Et progressivement, il y a cette bascule qui fait que, pour le bien de l'enfant, on se rend pas complètement dans l'art en fait. On fait tout pour qu'il aille bien. Et que
oui, on le prend à témoin, ce qui est pas toujours facile de demander à un enfant de 6-7 ans. Tu préfères qui?
Il y a des conflits de loyauté terribles en fait pour cet enfant. Ouais.
C'est ça. Dis-nous ce que tu penses. Dis-nous si t'as peur. Dis-nous si t'as envie d'aller avec
notamment
lui.
Notamment dans une scène où il raconte un cauchemar.
C'est ça.
Et où en fait on est totalement égaré puisqu'on ne sait plus ce qu'il pense et qu'il est tiraillé entre cet immense amour qu'il a pour cette mère de substitution qui est incarnée par Mélanie et en même temps la conscience et que je suis son véritable père. Quoi.
Ouais. Et ce qui rend les choses douloureuses aussi pour lui, c'est que autant il a un véritable père dit biologique et qu'il est voué à retourner avec
c'est
lui.
C'est vrai que l'expression déjà.
C'est compliqué. Mais il n'a plus sa mère, donc la place, là, pour le coup, elle est, d'une certaine façon, pour lui, elle est libre à cet enfant. Voilà pourquoi appeler votre personnage, Mélanie, maman, c'est pas complètement fou et irréel de la part de cet enfant, en fait. C'est ce qui rend...
Et puis, il faut s'imaginer, avec le temps, il est avec deux autres enfants, il les considère comme ses frères. On lui dit peut-être une fois, deux fois, non, pas maman, appelle-moi Nanou.
Non,
et puis au final, et puis avec le quoi, pourquoi
Dieu.
Non, et puis au final,
appelle-moi Dieu. Appelle-moi Dieu, c'est le truc encore plus dingue.
C'est inévitable en fait que le gamin finisse par l'appeler maman. Je veux dire, c'est
puisque vous parlez de ses frères.
Vous êtes encore dans le personnage. Hein, vous êtes encore en train de défendre votre personnage parce qu'en fait, c'est un film qui.
Ah, mais moi,
je trouve...
la comprends tellement.
Et voilà. Et moi, c'est un film que je trouve intéressant pour ça parce que très beau film de Fabien Gorgeard, on l'a pas dit, qui signe la réalisation et le scénario, mais c'est aussi parce qu'on sort. Pourtant, là, on se demande, non pas qui a tort, qui a raison, mais qui outrepasse un peu ses droits, qui est pas au bon endroit. Et avec toute l'affection que j'ai pour votre personnage qui m'a bouleversée, et je trouve que vous êtes une actrice formidable, Mélanie
clairement.
Thierry, dans ce film, vous
clairement.
M'avez vraiment... Mais...
Formidable point, et dans ce film, elle
ouais,
nous a bouleversé.
Et ben en particulier dans ce film-là, parce que c'est ce film dont on parle aujourd'hui, et c'est le souvenir le plus présent que j'ai de vous en tant que comédienne, vous m'avez vraiment bouleversée. À la sortie de ce film, je me dis, mais... Je comprends cet instinct maternel surpuissant, cette envie de protéger, cette envie de rendre heureux cet enfant.
Sauf,
et en même temps,
il y a de l'ambiguïté quand même.
Et elle va peut-être un peu trop loin.
C'est ça.
Elle
et
oublie la mission, elle en oublie le contrat. Il y a un cahier des charges. Ouais. On sait qu'il va falloir l'accueillir, on sait qu'il va falloir le laisser repartir. Mais...
Ouais.
Oui, enfin, ça pose une autre question de savoir est-ce que le papa et la maman est celui qui éduque et accompagne l'enfant ou est-ce que c'est celui qui l'a conçu. Cette question se pose aussi dans beaucoup d'autres situations, Félix.
Ah oui. D'où l'ironie un peu sous-jacente dans le titre qui s'appelle La vraie famille.
Ouais.
C'est-à-dire qu'est-ce qui fait une vraie famille? Est-ce que c'est une famille donc comme ça d'adoption ou une famille ou est-ce que c'est la biologie qui dicte
C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été éduqués par une famille sans que ce soit les parents biologiques et qui appellent papa maman cette famille-là et qui ne reconnaissent pas entre guillemets le géniteur. D'ailleurs, c'est extrêmement violent comme phrase, mais quand un enfant adopté appelle appelle son père le géniteur. Il y a vraiment un côté, ok, toi ça a été mécanique entre guillemets, mais l'essence,
oui.
Exactement.
Ah oui, enfin, en même temps, s'il a rejeté,
c'est ça que je trouve beau dans le film, c'est que précisément le géniteur.
Tout le monde ne réagit pas de la même manière.
Ouais. Le géniteur que je suis dans le film est le géniteur que je suis dans le film.
Non, mais vous êtes pas.
Je ne sais pas dire un jour cette phrase.
Vous n'êtes pas qu'un géniteur dans le film.
Non, voilà, c'est que ça dépasse ça. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui a un désir d'être père et qui va apprendre à devenir père au fur et à mesure du film.
Et elle va apprendre à ne plus être la mère de ce gosse.
Vous parliez des frères, justement, on va citer Basile Violette et Laurentin Califi qui sont également bouleversants. Le casting d'enfants est dingue dans ce film parce que c'est d'une justesse incroyable et ce ne sont pas simplement des enfants qui jouent de simples scènes. Il y a vraiment tout un parcours émotionnel aussi qui se passe de l'amour dans une fratrie jusqu'au conflit entre frangins aussi, limite baston avec je veux cette chambre, elle est plus grande, elle est plus petite que la tienne et ainsi de suite, jusqu'à des larmes ou une envie de eux aussi de garder parce qu'ils doivent ressentir dans la liaison wifi entre la maman et les enfants, ils doivent ressentir cet amour de la maman pour Simon et eux non plus n'ont pas envie de le voir partir et pas comme simplement un copain de jeu, comme vraiment un frère.
Non, et puis dans cette famille comme ça unie où ils ont trouvé un équilibre, où tout d'un coup il y a des souvenirs, il y a un socle comme ça qui est important. Quand à l'intérieur de ça va se dessiner un drame qui va se resserrer au fur et à mesure, et où on sent bien que tout d'un coup ça échappe, ça dépasse, ça déborde. Et personne ne reste indemne à ça, quoi.
Alors, il y en a un qui gère mieux la situation, je trouve. C'est le personnage de Lias Salem. Il est, déjà, il est costaud.
Il est rassurant.
Qu'est-ce qu'il est beau.
Il est génial.
Qu'est-ce qu'il est beau.
Ouais, il joue tellement bien aussi. Il joue tellement bien. Il a une espèce de la stature paternelle dans tous les sens du terme. Il a beaucoup de calme, et de temps en temps, il fait preuve d'autorité quand il faut faire preuve d'autorité. Mais lui,
il est la distance. Quoi.
Voilà, c'est ça. Lui, il reste dans le rôle de la famille d'accueil et il sait pas. Alors, avec tout l'amour qu'il a quand même pour Simon, il y a pas de doute sur le fait que ce soit un bon papa, y compris un bon papa d'accueil. Mais lui a bien compris qu'il y avait une mission et qu'il fallait s'arrêter. Lui, il est plus. Il est plus droit.
Il le fait la peine dans l'âme aussi. Hein. Il le fait pas de gaieté de cœur, quoi.
Clairement.
Mais c'est juste qu'il sait qu'il doit assumer une fonction jusqu'au bout et il doit être là pour Mélanie qui est complètement débordée par ses sentiments et son affect.
Et puis il y a la juge qui intervient. Il y a la dame de
l'assistante sociale.
L'assistante sociale qui est là, qui doit elle aussi attribuer et déterminer les règles. Il faut prévenir qui va chercher qui, à quel moment, comment se passent les week-ends, les anniversaires, les vacances. Enfin, c'est tout ça. On se retrouve replongé finalement dans une espèce de vie quotidienne avec ce en toile de fond cette émotion, ce lien affectif et cet amour maternel pour un petit garçon et peut-être un amour encore plus important, on va continuer d'en parler jusqu'à midi et demi, mais encore plus fort parce que évidemment que la maman aime ses propres enfants, mais elle surdose cet amour pour le petit malheureux qui n'a plus sa maman. Elle en rajoute.
Un film sur le débordement d'amour et pas sur le manque d'amour, c'est déjà pas mal. On préfère que ça déborde d'amour.
Par les temps qui courent.
Hein, c'est quand même mieux.
Jusqu'à midi et demi, donc Félix Moati et Mélanie Thierry sont nos invités. On est ravis de vous accueillir. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane Cadine. Parce que Morgane ne vous aime pas, Mélanie. Ne vous aime pas, Félix.
Non, Mélanie, Thierry, Félix, Moati, je vous aime pas. Félix, vous êtes né en 90 à Paris. Bah moi aussi, à un moment, va falloir s'acheter une personnalité, quoi. La prochaine étape, c'est quoi? Être humoriste ici, bras droit indispensable de Nagui, hyper original. Ouais, bah, j'en rajoute un peu en me qualifiant d'humoriste.
À peine.
Félix, quand j'ai découvert qu'on était nés la même année, vous m'avez servi d'échelle. Non pas que je vous sois grimpé dessus pour aller réparer une file, mais j'ai regardé toutes vos dates de votre biographie en comparant ce que je faisais moi la même année. En 2009, vous jouez Arthur dans LOL de Lisa Azuelos. En 2009, je vous regarde jouer Arthur dans LOL de Lisa Azuelos. C'est une question de prisme hein, la vie. En 2020, vous jouez déjà avec Mélanie Thierry dans No Man's Land sur Arte. En 2020, franchement, moi, je passe quand même 3 bons mois à me dire, au fond, ce confinement,
Eh, on n'est pas un peu content. Non mais, faut se replonger. La joie n'a pas duré longtemps, mais la toute première semaine du tout premier confinement, on s'est tous un peu réjouis que ça ait fait sauter un dîner pour lequel on avait la flemme. Franchement, on savait pas, ça a fait sauter 3 ans de nos vies. Ouais. Mais à l'époque, on était juste un peu en mode le lundi en culotte. Je vais péter dans mon lit toute l'après-midi, c'était trop bien. Depuis, Félix, vous avez fait plein de trucs et je me suis dit, ah bah ouais, mais il a vieilli, Féfé, quoi, normal. Puis après, je regarde votre date de naissance et je me dis, putain, merde, moi aussi. Et cette phrase, la précédente, elle est importante dans l'écriture de ce papier parce qu'au moment où j'écris cette chronique il y a quelques jours, je vous jure que c'est vrai, il y a 20 minutes de moi qui regarde par la fenêtre en me disant, putain, 31 ans, quoi. Franchement, ça va. Honnêtement, j'ai eu une espèce de sursaut de vie devant moi en me disant que j'avais tellement encore une bonne quinzaine d'années devant moi pour rater ma vie et ça m'a bien rassurée, franchement, bien. Si je m'y mets maintenant, d'ici mes 60 ans, je peux divorcer 4 fois, avoir 6 gosses de 3 pères différents, vivre une parenthèse enchantée avec un joueur de foot de 2e division, faire 300 heures de travaux d'intérêt général parce que j'aurais insulté un flic, le tout en fumant acidément des Marlboro rouges dès le réveil, j'ai le temps, quoi. Et ce film, il est sur la famille et moi je crois que c'est ce que j'inculquerais à mes gosses. Marre de l'injonction à réussir sa vie, tu peux être Félix Moiti ou tu peux être Morgane Cadignan, et si tu veux réussir la deuxième option, faut mettre la pression au petit dans l'autre sens, quoi. Très tôt, bah ouais mon grand, une vie de merde ça se fait pas, hein. Comme ça faut bosser, personne t'aidera, hein. Les artères elles vont pas se boucher toutes seules, donc tu vas courir, mais je te vois pas beaucoup utiliser ta pipe à crack, hein. Moi si le prochain test urinaire il revient négatif, Théo, c'est simple, je t'emmène plus à Porte de la Chapelle le samedi, ça va, quoi. Allez, retourne manger ton aligo devant la liste de Schindler, il est presque 8h30, on va aller à l'école. Mélanie, j'ai même pas essayé de me comparer, 25 ans de carrière, vous êtes un espoir pour tous les gens qui grandissent à Sartrouville, vous êtes à l'affiche de la vraie famille de Fabien Gorgeard avec Félix et plein d'autres gens que Nagui va citer plusieurs fois, faisant qu'on va encore rendre l'antenne à 17h30, mais tout le monde joue tellement bien et mérite tellement d'être cité que moi je vais m'arrêter là pour vous laisser du temps. De toute façon, je vais récupérer mon fils à l'école, on passe chez le dealer cet après-midi, on fait des gâteaux.
Merci.
Et l'un de tes futurs maris est peut-être à Lyon où tu joues jeudi, vendredi et samedi, Morgane.
Oh, sûrement. Ouais.
Voilà. Inch'Allah.
Retour donc sur ce film La Vraie Famille de Fabien Gorgeard avec Mélanie Thierry, Félix Moiti qui sont nos invités. Lies Salem, là on est dans les papas et les mamans. Et puis rajoutons donc Gabriel Pavy qui joue le rôle de Simon, ce petit garçon qui a perdu sa maman, qui a été placé dans cette famille d'accueil et que son papa veut retrouver. Adrien joué par Laurentin Khalifi et Basile Violette qui joue Jules, ça ce sont les deux fils de la famille. J'ai dit une bêtise.
Idriss Laurentin, je crois, il me semble.
Pardon.
Idriss Laurentin Khalifi.
Ah pardon, moi j'ai que Laurentin Khalifi. D'accord, mais je vais corriger.
Laurentin pouvant être un prénom, donc ça
c'est fait... pour ça.
Et puis ce qui est intéressant avec l'enfant, c'est qu'il a été placé à 18 mois et que quand le film débute, il a 6 ans. C'est important pour comprendre en fait
l'attachement,
le lien et puis aussi la crainte du père aussi de voir cet enfant, de redécouvrir un enfant qui n'était plus un nourrisson, même s'il a pu lui rendre visite de temps à autre. En fait, c'est ça dans le film.
Ah, Mélanie.
1, 2, 3, soleil, ok, vous avez gagné.
C'était à toi qu'on s'adressait, Félix.
Ouais, ah bon ouais, c'était à vous, Félix. Ouais.
Il a été placé à 18 mois, j'étais comme sous hypnose.
Ouais, en fait, c'est bien, c'est ma voix, ça fait souvent ça. Vous voulez arrêter de fumer parce que je peux vous aider.
J'ai essayé.
Mais ça va marcher, vous allez voir.
Ça va marcher 7 heures.
Lorsqu'on vous a proposé ce rôle, lorsque Fabien Gorgeard vous a parlé du scénario, Mélanie, j'imagine que vous avez tous les deux d'ailleurs beaucoup de propositions de scénar, d'histoire, c'est l'histoire, c'est l'enjeu, qu'est-ce qui vous a attiré et séduite?
Ah ben ça m'a bouleversé. C'est pas plus bête que ça, quoi. On a toujours envie d'être happé par une histoire quand on ouvre la première page, de se dire est-ce que ça va être pour moi, est-ce que ça va m'emmener quelque part, ou tout d'un coup ça va résonner quelque part en moi fort pour avoir le désir et l'envie de l'incarner.
Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes, comme le disait Leïla tout à l'heure, bouleversante, et je rajouterai, comme souvent dans les rôles que vous interprétez, mais là-dessus, lire un texte en se disant « c'est bouleversant », je suis...
C'était hyper bien écrit. Déjà parce que c'est fin, c'est subtil, c'est pudique, c'est complexe, c'est pas manichéen, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a de la vie, il y a un concentré de vie de tout le temps, et en même temps, avec, cette où on sait...
Je veux dire, on le sait qu'à un moment, il va falloir lui dire au revoir, ça, ce gamin. Donc forcément, moi, en tant que maman, je me projette, je m'identifie. Je peux pas m'empêcher de me demander quelle mère j'aurais été, est-ce que j'aurais mieux fait ou moins bien fait. Et en même temps, je la trouve admirable parce que l'expérience en soi, elle est magnifique. Je veux dire, c'est beau d'être à ce point dévoué et d'accueillir un gosse et de lui dire... On va l'armer pour la vie, on va prendre le temps et tout d'un coup il ira mieux et il va bien pousser, il va bien grandir et on va lui offrir un demain qui méritera, voilà, qui retrouve son père et qu'il soit d'attaque, quoi.
Justement, cette phrase-là.
Mais oui, mais parce que ça, c'est tu te dis ça et puis après t'oublies, c'est toujours la même chose.
Ouais,
c'est que la base, c'est le contrat, il est là et tu dis ok,
Les bonnes intentions de départ.
Il y a des bonnes intentions de départ et puis il y a un moment, le contrat, tu l'oublies, tu le mets de côté et puis tu te laisses complètement embarquer.
Et puis parce qu'elle est convaincue,
tu veux pas le voir repartir.
Ouais, et puis parce que je crois aussi à un moment qu'elle est convaincue que c'est avec elle, que cet enfant sera le plus heureux. C'est aussi ça, elle le fait pas. Elle a un tel amour aussi pour lui que.
Parce qu'elle le connaît par cœur.
Et qu'elle le connaît, c'est
et
pour
à partir
ça,
du moment où elle. Mais je veux dire, je comprends qu'elle le connaisse si bien, qu'elle devine toutes ses pensées, qu'elle comprenne toutes ses craintes et tout ça. Et en même temps, elle n'a aucun droit.
Et pourtant, la lecture, pardon, parce que dans le film, il y a beaucoup de silence, de regards, de sourires, et qui font justement passer des milliers d'émotions. Ça, comment ça peut être écrit? Tellement c'est joué, tellement c'est vécu. Il y a simplement écrit, elle le regarde, elle sourit. Enfin, les didascalies étaient suffisamment nettes pour vous rendre compte
du champ du jeu. Non, mais c'est la situation, c'est les situations, les enjeux de chaque scène. Et puis, je veux dire, cette émotion, elle était palpable dès l'écriture. C'était une évidence, quoi.
Félix Moati, est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que le personnage de Mélanie Thierry est ambigu, justement, dans son rapport avec...
Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que quand on déborde, on noie aussi un peu quelque part. Et donc, elle déborde complètement de sentiments, elle est complètement submergée par ses propres émotions.
Ça va, elle l'enlève pas non plus.
On vous a vu, hein.
Il y a de l'engagement à cette table. Voilà.
Il y a une ambiguïté du coup de fait.
Oh, l'acte manqué. Ouais, c'est-à-dire que l'acte manqué du film se reproduit dans l'interview. J'adore.
C'est incroyable. C'est vraiment une actrice jusqu'au bout.
Une maman jusqu'au bout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le réalisateur Fabien Gorgeard parle d'une partie de son histoire familiale. Parce que sa propre mère était assistante maternelle de la DAS, c'est ça? Pour la DAS.
Je sais pas ce qu'elle faisait avant.
Je crois que c'est
mais
ça.
Et elle accueillait des enfants. Accueilli un enfant, que le metteur en scène, s'il doit être un des enfants de la fratrie, ce serait l'aîné.
Ouais.
Et elle en a accueilli un et pas deux.
Ouais. Donc
après, il s'est emparé d'autres histoires et il a rencontré d'autres familles d'accueil, d'autres personnes en aide sociale pour lui permettre de mettre des paravents et prendre de la distance sur sa propre histoire et pouvoir la raconter avec un peu plus de recul parce que sinon c'était trop douloureux. Et puis il avait envie d'une. Il s'est emparé d'autres choses en tout cas pour que tout d'un coup ça devienne
du romanesque.
Ouais.
La fiction, quoi.
Superbe film, extraordinairement émouvant, mais aussi, c'est vrai, souriant, plein de vie et de valeurs aussi dans la transmission, dans le partage, dans le papa idéal. Hein. Franchement, on est papa, on voit jouer Lies Salem, on se dit waouh, il assure, le mec. C'est le bon daron.
La force tranquille.
C'est la force tranquille, mais en même temps, il joue, il est complice et il donne.
Il est comme ça dans la vie aussi. Hein,
il est génial.
Super comédien et super réalisateur, Lies Salem.
Super réalisateur.
Formidable.
Ce film, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, pardon, La Vraie Famille a été au Festival de Sarlat en film d'ouverture. Il a reçu plusieurs prix du jury, du public et des étudiants au Festival de Valenciennes. Et le prix du jury et de la meilleure actrice pour Mélanie Thierry, tout ça, à Valois.
À Angoulême. C'est à Valois,
Leïla y est pour quelque chose.
Elle était dans le jury.
Absolument, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai vu ce film. Ri aussi.
Et tu m'as dit que tu avais reçu le chèque et que tout allait bien.
Et bien sûr.
Et pourtant, elle a voté pour un autre film.
Mélanie a été saluée comme l'interprète exceptionnelle qu'elle est dans ce film. Voilà.
Mais quelle est arrête.
Oui, mais je sais, mais moi je parle de ce film, oui, c'est important. C'est vrai, ce que je veux faire, c'est que non, les gens aient voir ce film et voir Mélanie dans ce film. Je crois que c'est important.
On est d'accord que, je sais pas si t'as remarqué, mais chaque fois qu'on recevait Mélanie Thierry, on a toujours dit qu'elle était exceptionnelle dans la promotion qu'elle venait faire.
Ben moi, ah, je oui. trouve que.
C'est ce que fait Leïla. C'est ce que fait Leïla.
Je dis qu'elle est exceptionnelle dans ce film et je trouve qu'il y a un truc très fou dans ce rôle parce que je sens que ça la touche encore aujourd'hui qu'elle en parle. Donc il y a un truc différent.
Elle en parle tellement qu'elle est dans le déni encore de l'histoire.
Voilà.
On recevra tout à l'heure Brigitte Djebar, qui a participé d'ailleurs à l'écriture aussi du scénario avec Fabien Gorgeard, qui est formatrice et médiatrice familiale dans le département de Seine-Saint-Denis. Mais avant cela, évidemment, voici Monsieur Guillermo Guille.
Oui. Allez, ça va les amigos, pardon, yes. Mais ça y était un peu. Vous savez que de temps en temps, dans cette émission, j'aime bien révéler ma correspondance privée avec Nagui.
Génial.
Chaque fois, il me fait « t'as pas le droit !» Et c'est vrai, du coup, je le fais, quoi. Nagui, c'est vous qui m'avez dit « de toute façon, l'éthique, c'est un truc pour les femmes. » Je me rappelle, vous m'avez dit ça. Est-ce que ça fait de moi un traître? On va laisser les prud'hommes se prononcer. Et là, dans sa tête, Nagui se dit « putain, qu'est-ce que j'ai encore écrit ?» Vous inquiétez pas, c'est pas la fois où vous m'avez dit « si jamais tu connais un maire de France, s'il te plaît, dis-lui de parrainer Marine. » Mais non, c'est pas celui-là. Je vous ai déjà dit, pour les parrainages de Marine, vous voyez direct avec Leïla, oui. C'est elle le relais avec la famille Le Pen. C'est un travail de fourmi, hein. Elle est sur les marchés et tout. Non, je parle de notre discussion sur Seaspiracy, Nagui. Vous vous rappelez le documentaire Netflix qui parle de l'impact environnemental de la pêche.
Ouais.
Alors, alerte, spoiler, c'est pas ouf, hein. L'impact environnemental de la pêche. Globalement, c'est rare les documentaires où à la fin on dit, en fait, bah, tout va bien. Changez rien. Il n'y a jamais personne qui dit, j'ai vu un docu sur la forêt amazonienne. Ça repousse. Nickel. Non, qu'au fond de moi, je savais qu'en regardant Seaspiracy, j'allais devoir arrêter le poisson. J'avais eu ça avec le livre Antispéciste de Émeric Caron. J'avais arrêté la viande. J'avais eu ça avec l'album de Vianney. J'avais arrêté la musique.
Bravo.
J'ai arrêté la viande il y a 4 ans, mais je continuais à manger du poisson. Tu vois. Donc, du coup, chaque fois que je disais en public que j'étais végétarien, il y avait une sole qui faisait Mito ! Mito ! Sérieux. Et mon argument, c'était dans ma tête, les poissons, ils ressentaient moins la douleur et le stress de la mort. Et je me disais, le poisson, quand il meurt, il doit juste se dire, tu vois, tiens, elle est inhabituelle, cette sensation, non ? Avant, je respirais, non ? Enfin, vraiment, je pensais que c'était ça, un poisson. Mais en fait, dans Seaspiracy, on comprend que les poissons, ils sont plus sensibles et plus intelligents que je croyais, quoi. C'est vrai, enfin, intelligent, c'est pas qu'un cabillaud, c'est nobilisable, tu vois. Je veux dire, mais une dorade, ça peut aller dans tes PMP. Franchement, ça impacte le niveau du truc. Vraiment. Il y a un nom pour ce que j'étais depuis 4 ans. En fait, j'étais péchétarien. Péchétarien, je le savais pas. Mais j'étais le monsieur Jourdain du péchétarisme, quoi. Tu vois, là, il y a une sole qui fait arrête de faire le type qui a lu Knock. Et toi, arrête de m'interrompre, sol imaginaire. Vraiment. Du coup, je mange plus de poisson non plus. De temps en temps, je mange des crevettes. Je suis crevettarien, je pense. Mais comme je les aime bien, glace au cocktail, je sais pas s'ils vont en crevettarien, tu vois. Et oui, cette blague vient d'être élue pire vanne de l'année 2022. Ça a été constaté par huissier. Mais quand vous amenez tous de la qualité, peut-être dans cette émission, genre, Morgane, ça fait 2 ans qu'elle commence chaque chronique par Mélanie Thierry, Félix Moati, je ne vous aime pas. C'est le nom de sa chronique, en fait. Mélanie Thierry, Félix Moati, je ne vous aime pas. Elle parle de vous en mal tous les jours, quoi, vraiment. Même quand l'invité, c'est Jean Dujardin et Marion Maréchal, elle dit Félix Moati, je ne vous aime pas. C'est vrai. Bref, quand j'ai lu Seaspiracy, j'ai direct envoyé un message à Nagui et il m'a répondu oui, c'est vrai, c'est un film de bandits et de mafia, sauf que c'est un docu. C'est vrai, t'avais dit ça. Et il avait dit, il avait ajouté cette phrase mythique, en mangeant plus de poisson, on les nique. Tu rappelles comment il dit
ça? Ça oui.
On les nique, putain, dans sa tête, Nagui, c'est Elliot Ness. Il dit, on nique la mafia. Chaque fois qu'il ramène un chourave à la maison, il dit, là, je vous les nique, c'est comme ça. Et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on les nique en arrêtant de manger du poisson, mais moi, en vrai, je mangeais pas tant de poisson que ça, quoi. C'est pas que quand j'ai arrêté le capitaine Iglo, il se fait, ah bah, ça va nous faire un vide. Vraiment, tu vois. Peut-être pas vous, Nagui. Peut-être que vous, au petit déj, mangez 2 murènes, 3 poissons clowns, tu vois. Peut-être quand vous avez arrêté, ils ont rouvert une mer. Peut-être, hein, c'est possible. Mais moi, je sais que c'est limiter mon apport individuel à la cause. Il y a plein de fois où je me demande pourquoi je m'inflige ça. Putain, plus je gagne ma vie, moins je mange des trucs que j'aime. C'est paradoxal, quand même, non? L'autre jour, j'ai cuisiné du panais. Véridique, du panais, quoi. Je crois que je préfère manger un chewing-gum dans un cheveu. Vraiment. Ça pose la question des plaisirs individuels. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Quartier Rouge, le plaisir et la gauche. C'est un ouvrage vraiment incroyable. Je vais être très clair, je ne l'ai pas lu. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu que dans l'équipe on fasse putain, il lit des livres, oh le snob. Non, je ne veux pas ça. Mais c'est vrai que l'auteur il disait que la gauche avait abandonné la notion de plaisir à la droite en fait. Et avec cette phrase incroyable, puisqu'on ne peut plus transformer le monde, on va changer nos vies et les purifier. On purifie nos vies, Nagui. Mais hier, je suis passé au canal Saint-Martin, il n'y a aucun poisson qui m'a fait merci Ernesto, grâce à toi, ma belle-sœur est encore à la maison, on a pu faire la chandeleur. Nique la mafia, allez, bonne émission. Les
merci. Visiblement, Félix Moati connaît le livre dont tu parles.
Ouais. Ah ouais, j'ai lu une longue interview de l'auteur, ça donnait grave envie.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'il y a un truc, il y a
c'est vrai que l'idée de l'abandon du plaisir
a monopolisé la notion de plaisir. Ouais.
La vraie famille dans ce film, il y a des moments musicaux. Mais c'est la mort qui t'a assassiné.
une très belle chorégraphie.
Ah, ça. Tellement bien, ça faisait, j'avais pas souvenir de vous avoir vu danser dans un film une chorégraphie, Mélanie Thierry.
C'est la première. C'est une comédie musicale qui est sortie au mois de septembre. Je faisais 2-3 pas de danse un peu modeste, mais quand même, tra-la-la. Le tralala des frères Larrieux.
Ouais, dans la boutique.
C'est même un peu la chansonnette.
Ouais, ça, oui, ça.
Non, mais là,
ça,
la chorégraphie, elle est surtout le long de la chanson. Mais on s'est donné du mal. Chanson,
ouais. Et être synchro avec Lies. Mais c'est ça le talent de ce couple d'acteurs et de ce film-là, c'est comme ils doivent se souvenir d'une choré d'il y a plusieurs années, ils sont synchro, mais pas totalement, avec des petites
fautes. Ah, il y a des pains, hein, forcément, il y a des pains.
Il y a des pains comme n'importe qui essaierait de retrouver une choré d'il y a 6-7 ans, c'est ça qui est génial.
Ouais, c'est une scène importante pour montrer aussi que c'est un couple amoureux, quoi. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire aussi. C'est ça qui compte.
On balance toutes les cartes, là.
Bah, non, mais de toute façon, on se doute bien qu'ils s'aiment tous les deux.
Non, mais je pense qu'on peut tout raconter de ce film. Il y a quelques, évidemment, il y a des rebondissements, il y a du suspense et on va évidemment pas dévoiler la fin. Mais quand bien même on vous dirait tout ce qu'il y a dans le film, le voir, enfin, ça ne déflorait pas le plaisir de le voir, l'émotion de le voir et le partage que l'on a. On ne peut pas voir ce film sans se mettre à la place de la maman, sans se mettre à la place du papa et peut-être même de l'enfant, se disant comment j'aurais vécu telle ou telle situation et si j'avais été à leur place, si j'avais la responsabilité de transmettre à un enfant et qu'on vient de me dire ça s'arrête demain en plus, parce que il y a même pas le temps de, il y a même pas la dépressurisation du vous avez encore 2-3 mois pour vous séparer.
C'est brutal, mais
et ça se passe comme ça dans la vie.
Bah, toutes les histoires sont singulières, hein. C'est jamais la même histoire, et puis c'est pas non plus, c'est pas la même expérience d'accueillir un enfant de 15 ans qui reste 3 mois chez toi, et de nouer un lien avec un enfant de 18 mois qui sait à peine marcher, à peine articuler un mot,
et de tout lui apprendre.
Tu vas devoir élever jusqu'à ses 6 ans.
Et de tout lui apprendre,
donc
de
les
nager.
Les histoires sont différentes.
Apprendre à marcher, à manger, à nager, puisque on démarre justement dans un bassin comme ça avec un rapport qui est aussi un rapport charnel. Il y a beaucoup de bisous, il y a beaucoup de mains sur la joue.
Oui,
il y a des câlins.
J'ai pincé les joues, j'ai fait des bisous, j'étais tripoté comme ça, ils n'étaient pas contents.
Non, mais c'est là où je non, la trouve.
Ça va, je faisais ça avec...
Non, mais bien entendu.
Mais comme une maman. Comme une maman. Sauf que, est-ce que c'est mon regard, Mélanie Thierry, ou est-ce que c'est
non, mais parce qu'aujourd'hui, on a tellement peur de se faire taper dessus, parce qu'on a dit qu'on avait tripoté. Tripoté,
ça, je remets juste.
Autant préciser, vous avez raison, mais j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus tendre, affective et dans le hug et le câlin avec Simon qu'avec ses propres enfants.
Oui, mais les petits, c'est souvent comme ça aussi.
Le petit dernier, oui.
Le petit dernier, on n'a pas envie qu'il grandisse. Hein.
La musique dans la vie de Mélanie Thierry et Félix Moati, avant que nous reparlions de la vieille famille et avant d'accueillir Brigitte Djebar, donc médiatrice familiale dans la Seine-Saint-Denis et qui a été conseillère sur ce film. En 2009-2010, Mélanie, vous écoutiez...
Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle.
C'est Zaz.
Pourquoi cette
chanson ? C'est mon mec qui a écrit la chanson.
Ouais, c'est Raphaël qui a écrit.
J'ai pas pu m'en empêcher. Quand j'ai vu 2010, je me suis dit 2010, et là, paf, dans ma playlist, je vois Zaz. Je me suis dit 2010, ah bah, je vais pas me gêner. Non, j'adore cette chanson, je trouve qu'elle est magnifique. Déjà, je la trouve très belle, très bien écrite.
Hein. Est-ce qu'elle aurait pu être chantée par Raphaël, d'ailleurs, à votre avis ?
Ou est-ce qu'elle est faite sur mesure pour... C'est-à-dire qu'elle a une voix qui est tellement... ça vient tellement de loin, je trouve que c'est tellement puissant, quoi. Elle est vibrante quand elle chante cette chanson, quoi. Ça me fait quelque chose.
Et dans ces années-là, Mélanie, on vous retrouve sur scène dans Baby Doll de Tennessee Williams. Et on vous retrouve aussi au cinéma dans Le Dernier pour la route, un film de Philippe Godot qui vous vaut le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle. Un rôle aussi difficile, j'imagine, à prendre en compte, de s'emparer d'un personnage comme celui-ci. Vous racontez que c'était le rôle d'une femme alcoolique.
Oui.
Il n'y a pas trop de propositions pour Mélanie là-dessus.
Ah, il envoie.
Voilà.
C'est pas vrai.
Non, mais t'es culotté, c'est toi qui parles en plus.
Voilà, je voulais juste mettre une bonne ambiance. C'est tout, ça s'arrête là. Non. Comment vous vous êtes préparé à ce rôle-là qui est
Du Dernier pour la route.
Il a
été salvateur pour moi.
Parce que
je venais d'accoucher de mon premier, que j'ai eu un vilain méchant coup de blues.
Postpartum
baby blues. Hein. Et j'avais un peu peur de m'emparer de ce personnage comme ça, un peu borderline et fragile. Et finalement, ça m'a remis sur pied, quoi, de travailler, d'avoir foi en un film, de, je sais pas, il y a eu comme, c'est, je suis revenue à la lumière comme mon personnage d'une certaine façon.
Il y a un rôle psychanalytique dans certains personnages que l'on peut incarner, c'est-à-dire que ça permet de mieux se comprendre aussi, de mieux revenir à soi et à
alors,
la vie normale.
Je sais pas trop.
Non, mais là, c'est le sentiment que ça
mais
donne.
Mais en tout cas, sur ce film-là, après, je veux dire, j'allais pas mal non plus. Hein.
Et sur La Vraie Famille.
Mais bon, on sait bien que les baby blues peuvent être coriaces parfois.
Ouais,
bah
après,
ça arrive.
C'est pas simple. Ouais.
Il faut juste se réadapter, hein, que hormonalement, on remette un peu les niveaux, voilà, à niveau.
Et c'est pas grave, ouais, ça prend
et c'est
temps.
Pas grave. Ouais.
Et sur la vraie famille, quand on rentre à la maison après avoir joué des scènes aussi denses et émotionnelles, on fait des câlins encore plus forts à ses enfants en pesant la magie ou la chance de la vie que l'on a.
Moi, j'étais un peu une punaise hein, sur ce tournage.
C'est
je
ne
sais pas pour quelle raison, mais
ça gratte.
Mais j'étais pas fastoche. Et c'est vrai que je rentrais à la maison, je tournais en rond, quoi. Pas que je fulminais, mais je savais plus ce que je faisais. J'étais perdue, je savais pas si c'était bien, si c'était de la merde, si ça tenait, si on allait pas me détester. Je perdais pied complètement. Donc je rentrais à la maison et c'était ça qu'on retrouvait.
Et c'est pour ça, Félix, vous êtes tombé vous dans l'alcool.
La table le soir, ouais, c'est pour ça.
Je bois pour oublier.
Pour oublier Mélanie, c'est ça.
Non, mais voilà. Vous savez maintenant, Mélanie, pourquoi vous avez été une punaise, comme vous le dites, sur ce tournage. Est-ce qu'après coup, vous arrivez à mettre des mots là-dessus?
Non, mais c'est malgré soi. Parfois, on a tendance à rejoindre son personnage ou le personnage. Je sais pas comment ça se magouille tout ça, mais il semblerait quand même qu'il y ait un moment où
les deux,
où les deux se rejoignent et comme Félix. Mon personnage était un peu perdu, un peu débordé et avoir la sensation qu'on la comprenait pas et qu'elle vivait ce
calvaire. Ouais.
Non, et puis je pense que toi, enfin que Mélanie, c'est un genre d'acteur ou en fait dans l'incapacité du mensonge. Et donc il y a une espèce de confusion, tous les sentiments sont exacerbés, elle le vit pleinement, il y a presque une incapacité de l'artifice. Et
c'est ce qui fait la force de son jeu. Quoi.
Et ce qui fait la force.
La sincérité.
Ouais. Oui, voilà, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, moi c'est ce qui fait que je trouve depuis toujours que c'est une actrice éblouissante. Et effectivement elle est dans l'incapacité de mentir, et donc forcément parfois c'est un fardeau aussi parfois je pense.
Et pour les autres, tu veux dire.
Oui, voilà. Nous, on est très proches, c'est moi qui...
Félix Moiti, vous écoutiez, et quel bon titre, les Stones. Les Stones en 2010, pourquoi ce titre à ce moment-là?
Ce titre à ce moment-là, je crois que j'avais 20 ans, donc j'étais un peu dans la mégalomanie de cet âge-là, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est la scène d'ouverture, en plus je me souviens des Infiltrés de Scorsese, et qui est un de mes films préférés, que je regardais en boucle à cet âge-là. Et je sais pas, j'avais 20 ans, il y a un désir de vivre, une puissance d'exister, et je trouve que ce morceau s'y prêtait parfaitement. Quoi.
Top, ouais.
Enfin, je l'aime trop.
Et côté paternel, les rêves c'était plutôt Sciences Po et l'ENA. Et en fait, vous Félix, vous avez opté pour la comédie, et à cette époque-là c'est LOL d'Elisa Azuelos, et vous participez au casting. Vraiment dans l'idée de rencontrer un peu des filles, je crois.
Ah ouais, non, c'est pas même pas je crois, c'était ma seule. C'est vrai que c'est pas très noble, mais enfin.
Bon, c'est une motivation comme une autre. Ouais. Enfin, c'est ce qui vous fait vraiment vous rendre au casting.
Ah bah en fait, c'est vraiment un mélange d'ennui un mercredi après-midi et un désir, ouais, de découvrir les secrets de l'univers, quoi.
Ça peut sembler fou comme ça. Les secrets de l'univers.
Voilà, c'est bien dit ça.
L'origine du monde, quoi.
L'origine du monde,
tout simplement, bien sûr. Avec une autorisation demandée aux parents ou pas du tout, ou en tout cas une sorte de validation.
Non, mes parents étaient très opposés à ce que je fasse un casting. Ils étaient inquiets. Du coup, ça m'a motivé encore plus, hein, ce qu'on appelle une crise d'adolescence tardive. Et puis après, j'y suis allé avec tous mes potes. C'était ça qui était drôle, en fait. Et moi, il se trouve que j'ai été pris, donc ça a commencé comme une blague un peu, et puis après c'est vrai que le film a eu beaucoup de succès, puis j'ai adoré jouer, donc voilà.
Et pas que ça s'arrête, ouais.
Non, surtout pas.
Mais vous ne dites pas si ça a marché ou pas.
Ah, les secrets de...
On va aller draguer.
Mieux.
L'histoire ne le dit pas.
C'est,
okay,
toujours, c'est toujours un petit plus.
J'espère que j'ai d'autres charmes.
Oui.
Enfin, la confiance est revenue, alors, peut-être. Ouais. En 2018, Mélanie Thierry, vous écoutiez...
Chanson, toi qui ne veux rien
connais pas sa voix.
Dire, toi qui me parles.
Et en 2018, Mélanie, on vous retrouve dans La douleur d'Emmanuel Finkiel, où vous incarnez Marguerite Duras, où on retrace, voilà, une partie
Duras de l'existence. Duras avant Duras.
Duras avant Duras, c'est ça, Duras.
Avant qu'elle ne trouve son nom d'écrivain.
Ouais, cette Duras amoureuse, cette Duras inquiète, cette Duras qui lutte, qui combat, et qui s'épuise aussi dans ce combat, dans cette difficulté. C'est le portrait d'une femme, en fait, avant même
et de l'attente.
Ouais, dans l'attente. Ouais. C'est un bon souvenir pour vous, ce rôle-là?
Oh, mais c'était merveilleux. C'était éblouissant, quoi. C'était magnifique, ce qu'on m'offrait là. Mais parce qu'il y a les mots de Duras qui sont superbes, et que de se promener sur ces mots-là, c'était beau. Et puis, j'étais accompagnée par un immense metteur en scène. Et que j'avais la sensation qu'on était à bord de quelque chose qui, ben je sais pas, qui nous débordait tous, de ben moi, mais tout autant la première assistante que le chef opérateur, c'était beau.
Félix Moati, vous écoutiez dans ces années-là. Yo, the way I felt. Sometimes it's too hard to sit still. Things are so passionate, times are so real. Sometimes I try to chill, mellow down, blow a smoke. Smile on my face, it's really no joke.
You feel it in the people. Comment ?
Non, c'est une BO. Pourquoi choisir ce...
Je sais pas, à cette époque-là, j'écoutais ça, ouais, effectivement. Parce que ça se prêtait bien à des errances nocturnes, à des trajets en voiture, et puis je sais pas, j'étais dans la réalisation de mon film, je crois.
Ouais, c'est ça, le premier.
Et donc, ça s'y prêtait bien à cette période-là.
Deux fils, en effet, c'est votre premier long-métrage. Vous avez collaboré à l'écriture avec Florence Sévos.
Oui.
C'est important au départ, quand on se lance dans une aventure comme ça, de pas être seul à la signature du scénario.
Bah, en plus, je suis bien tombé. C'est-à-dire que Florence Sévos est quand même une très grande auteure pour enfants. Elle a écrit Le garçon incassable, par exemple. Et elle a écrit des films auxquels je suis très sensible, ceux de Noémie Lvovsky, par exemple. Mmh. Et donc, effectivement, elle a été très déterminante dans l'écriture. Elle m'a beaucoup encouragé à garder un certain rythme, une comédie, ne pas avoir peur d'une certaine gravité de temps en temps. Enfin, ouais, ça a été très important, la collaboration avec elle.
On revient à La vraie famille, de ce film qui sort demain au cinéma, avec Mélanie Thierry, Félix Moati, qui sont nos invités, également Lies Salem, Gabriel Pavvy, Idriss Laurentin Khalifi et Basile Violette. On va en parler avec vous, Brigitte Djebbar. Bonjour, merci. Bonjour. De venir à ce micro. Vous êtes formatrice et médiatrice familiale dans le département de Seine-Saint-Denis.
Pas exactement.
Pardon.
Je suis formatrice et médiatrice parce que je suis en disponibilité, mais j'étais éducatrice à l'aide sociale à l'enfance et donc chargée du suivi d'enfants placés au sein de ce service.
Donc vous avez conseillé...
Pendant 28 ans, voilà.
Et vous avez conseillé Fabien sur ce film?
C'est ça.
Pas pendant 28 ans, ça a été plus court j'imagine, mais tout aussi dense.
Tout à fait.
Vous êtes l'auteur de Familles en danger, oui.
Dans 93,
aux éditions Addis. Donc vous avez participé, j'imagine, pour apporter la crédibilité des situations, voire des sentiments dans le film. On disait tout à l'heure que chaque placement avait forcément une histoire différente en fonction de l'âge de l'enfant, de la famille. Mais par exemple, lorsque la première fois, est-ce que c'est toujours délicat pour une famille d'accueillir son premier enfant, parce qu'ils apprennent eux aussi à jouer leur rôle?
Bien sûr que le premier accueil est toujours essentiel et reste un souvenir pour les familles. Cela dit, depuis les années 80 où s'est passée l'histoire par Fabien, les choses ont beaucoup évolué, hein, oui. Et notamment une professionnalisation du statut de l'assistante maternelle qui est devenue assistante familiale à partir de 2005. Il y a un contrat d'accueil, et il y a un stage préparatoire de 60 heures avant l'accueil du premier enfant.
D'accord.
Et ensuite, pendant pratiquement 2 ans, elles ont 240 heures de formation à suivre. Donc c'est quand même des paravents, si vous voulez, pour effectivement éviter ce genre de situation de débordement le lien à l'enfant.
Avant d'arriver à cette situation, il y a combien de familles d'accueil en France et combien d'enfants ont besoin d'être accueillis?
Alors, il y a 40 000 apparemment assistantes familiales en France, d'après les statistiques, qui sont pas forcément tout à fait précise, hein, mais bon, c'est 40 000 à peu près, familles d'accueil.
Et combien d'enfants ont besoin d'être accueillis, d'être protégés ?
Alors,
pour différentes raisons, il n'y a pas que. Et il y a des parents ou des pères qui disent, moi, je ne me sens pas capable, et, comme la situation du film, et d'autres décisions prises par des juges, la loi, en disant, on retire la garde de l'enfant aux parents pour les placer.
Oui. Alors, effectivement, on parle de 312 000 enfants, effectivement, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dans ces 312 000 enfants, effectivement, il y a des enfants placés et puis des enfants qui ont des suivis éducatifs, mais qui restent au sein de leur famille. Il y a deux sortes de placements. Hein. Il y a le placement judiciaire, effectivement, dans ce cas-là, c'est un jugement judiciaire, puisqu'il y a un juge pour enfants.
Dans le film, oui.
Et il y a des placements administratifs, hein, à la demande des parents, qui sont en général plus temporaires, hein, effectivement.
Alors justement, parlons de la durée. Est-ce qu'il y a une durée moyenne de l'accueil d'un enfant dans une famille ?
Non.
Non.
C'est-à-dire qu'il y a une ordonnance provisoire de placement du juge pour enfants qui ne peut pas aller, puisque c'est une ordonnance provisoire de placement, au-delà de 2 ans pour la première ordonnance, qui peut effectivement, ça peut durer 6 mois, c'est-à-dire que si les parents vont bien et qu'on a évalué, notre service a évalué que le parent va mieux, qu'il est capable de récupérer son enfant, ça peut être il y a une mainlevée qui est demandée par les services de l'aide sociale à l'enfance.
Et alors ce déchirement, c'est-à-dire retirer un enfant à une famille, c'est un nouveau déchirement. Il a vécu un premier déchirement en étant retiré à ses parents ou éloigné de ses parents biologiques. Mmh. Nouveau déchirement, celle de cette famille qui l'a accueilli, qui l'a éduqué, qui l'a élevé. Mmh. Et d'un coup, il retourne naturellement ou la volonté de tout le monde vers ses parents naturels. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien qui se maintient entre une famille d'accueil et ses enfants ? Est-ce que les choses se passent mieux que,
oui. Alors,
que dans le film ?
Effectivement, bon, moi, je vais parler de mon expérience professionnelle. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai toujours accompagné et les familles d'accueil et les parents dans un soutien assez étroit pour qu'ils puissent me faire confiance et que du coup, j'ai beaucoup d'enfants qui gardent des liens avec la famille d'accueil tout en étant aussi chez leurs parents, voyez. Mmh. Donc, ils sont devenus un peu des parrains ou des marraines de l'enfant et donc il y a une continuité. Bon, cela dit, il faut être effectivement très dans la prévention, si vous voulez, de ce genre de débordement, et ça se fait au fil du temps.
Dans l'accompagnement, oui.
Oui, dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est très vigilant. Par exemple, là, dans la situation, je n'aurais jamais laissé la maman d'accueil accompagner l'enfant pour les vacances de Noël chez le papa, parce que évidemment que elle était telle dans un moment d'émotion que ça paraissait compliqué. De toute façon, ça allait se passer comme ça. Enfin, je veux dire, c'était attendu.
Merci mille fois, et surtout bravo pour les conseils que vous avez apportés à Fabien Gorgeard, qui maîtrisait déjà bien le sujet. Brigitte Djebbar signe, je le rappelle, Familles en danger, dans le 93, aux éditions Addis. Bonne journée. Voici le héros du jour, Monsieur Daniel Morin.
Absolument. Mes chers amis, mon héros du jour, je vous le dis tout go, aurait pu être mon plombier. Oui, cet homme aurait pu facilement et de façon fort méritée être mon héros de ce mardi. Ce matin, je n'avais pas d'eau chaude. Et contrairement à ce que disent certains, non, c'est pas tonique, non, c'est pas vivifiant, non, ça fait pas du bien. Bande de cons, c'est l'enfer qui arrive dans ma salle de bain à 5h30. Ce matin, pendant mon papier de 6h57, je claquais encore des dents. Eh bien, il y a de cela une petite heure, mon plombier m'a appelé pour me dire que tout était rentré dans l'ordre. Ah. Mais malheureusement pour lui, non, mon plombier n'est pas mon héros du jour. Il ne l'est pas. Mon héros du jour est un peuple. C'est le peuple russe. Pourquoi ? Parce que les Russes, on les emmerde pas. Le Russe, il est fier, il est noble, il est cruel, il fout les pétoches. Regardez Poutine. Le gars, il a envoyé quasiment toute son armée à la frontière ukrainienne. Tout le monde lui dit « Vladimir, ça se fait pas trop d'envoyer des soldats comme ça à une frontière. Ce serait bien que tu les retires. » Réaction de Poutine ce matin, « J'en retire 2 et c'est tout !» 2 Da 2 Mais sur les 499 998, ça fait beaucoup ? Comment ça fait beaucoup ? Et tu vas faire quoi ? Tu veux pas retirer plus ? Niet ! Les Russes, ils foutent tellement la pétoche que même en sport, même au JO de Pékin, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Récemment, Kamila Valieva, une patineuse, est annoncée positive à un produit dopant. Conséquence, elle va être disqualifiée des JO. Réaction de l'agence antidopage russe, niet, on lève la sanction. Merde, on file le dossier au tribunal administratif du sport. Là, c'est sûr, elle va être virée de Pékin. Niet, le tribunal confirme la levée de sanctions de l'agence russe. Les Russes foutent la trouille. Eh ben moi, je respecte ça. Je respecte tellement ça que ce matin, à 11h, passé de bientôt 59 minutes,
pas là.
J'en appelle
non.
solennellement à Jean Castex. Monsieur le ministre, il te reste 2 mois avant la fin de ton CDI. Ces 2 mois, il faut les finir en fanfare, il faut les finir en apothéose. Et ton problème, mon Jeannot, c'est que t'es pas un mec tranchant. T'es pas un mec qui est dans le, t'es un mec qui est dans le dialogue, dans la négo. Mais la négo, c'est une perte de temps. Quand tu négocies, on te respecte pas. Entoure-toi de Russes, de bons Russes, bien méchants, qui font peur. En conférence de presse, un Russe à droite, un Russe à gauche, calache en bandoulière, tu imposes ce que tu veux. Pense Ukraine, pense patinage artistique, pense domination. Allez, tiens, pour te mettre en condition, écoute-moi ça. C'est bon, non? Ça donne envie de faire des réunions, ça? Bien sûr que non. Ça donne envie de boire, de taper du poing sur la table et de gifler tes interlocuteurs. Pense Russe, mon Jeannot, pense Russe, Tovalitch. Pense Russe et tu finiras ton mandat, je te le dis, en feu d'artifice.
Merci, Daniel Morin. Henri Passereau, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Je veux parler d'Éric Zemmour, pas le candidat, le coiffeur. Il en a c'est marre vrai. Qu'on le prenne pour l'autre.
Il a fermé.
Oh. Oui,
c'est ça. C'est la bande originale, merci si vous nous rejoignez sur Inter avec Leïla Kadhafi, Morgan Cadignan, Guillermo Guiz. Elle dit quelque chose ? Quoi ? Non mais un signe de la tête, c'est à faire ? Non mais voilà, mais j'ai pas entendu. Tanguy Passereau,
bonjour.
Daniel Morin, ouais, toi avec tes poissons. Hein. Et nos invités Mélanie Thierry et Félix Moratti. Extrêmement brillant, marquant, bouleversant dans ce film, l'un comme l'autre, comme Lies Salem, comme tous les enfants. D'ailleurs, jouer avec des enfants, on a toujours entendu dire par des actrices, des acteurs à ce micro que c'était pas simple, oui, de jouer avec un enfant, soit il...
Ou un chien.
C'est pas facile. Oui, ou Richard Berry, je crois. Il y a plein qui ont rajouté des trucs comme ça. Mais de se dire...
Ah, la violence. Un truc complètement grave. Enfin, non.
Non.
Voilà.
On vous embrasse, Richard.
Et de se dire, finalement, est-ce qu'un enfant peut reproduire X fois, quand vous faites plusieurs fois une scène, la même scène, le même jeu, la même intention, ou est-ce que, au contraire, son intention est tellement fragile, naturelle, que vous aussi, vous devez être efficace dès la première prise? C'est des questions qu'on se pose sur un tournage, Félix Moati, quand on joue justement avec des gamins de 7 ans.
De 6 bas âge. Bah, c'est vrai que ça nous impose d'être, de faire preuve de patience, de toute évidence. Et puis d'être très à l'écoute, c'est-à-dire qu'on doit être disponible à toute forme d'inattendu et de surprise.
Quoi, c'est ça. Ouais. Non, c'est important.
L'inattendu et la surprise, quoi.
Et d'en profiter au contraire à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas deux fois la même prise.
C'est vrai que c'est assez rare qu'on fasse les mêmes prises, mais c'est assez génial. Ça nous impose une écoute. Et c'est vraiment très bien. Et puis ça nous impose aussi, même ça dépasse le rôle en lui-même, c'est-à-dire sur le plateau, ça nous impose une forme d'exemplarité. Parce que moi, en tout cas pour mon personnage, j'étais très obsédé par l'idée de ne pas le décevoir et de le faire rire, ouais. Et qu'il soit à l'aise.
C'est joli.
Et de mettre sur mes épaules le stress et le trac qu'il pouvait avoir, puisque c'était un tout petit enfant, j'avais envie de le protéger un peu. Voilà.
On a beaucoup parlé de Mélanie Thierry, son rapport avec les enfants dans le film et la manière dont elle vivait sa propre maternité. Et ce qu'elle faisait avec ses enfants en sortie du tournage, vous aussi, vous êtes papa, donc j'imagine que ça devait résonner aussi émotionnellement.
Bah, j'étais pas papa à l'époque.
Ah, pardon,
j'étais pas papa. Ouais, j'étais pas encore père, voilà, c'est peut-être mieux de le dire comme ça, à l'époque. Donc j'y suis allé avec la candeur du jeune homme que j'étais, quoi. C'est-à-dire, comme mon personnage, j'essayais de devenir père
et d'apprendre à être père.
Ce que je suis en train de vivre maintenant, du coup, sans avoir abandonné mon fils, puisque je suis à même de pouvoir m'en occuper, quoi.
Mélanie, Thierry, vous, votre rapport justement aux scènes avec les enfants, à cette complicité, voire cette gestion de... un enfant peut très bien dire, bah non, j'ai pas envie d'y aller. À 7 ans, est-ce que forcément il est prêt à tourner au moment où la lumière, les décors et tout est prêt?
Franchement, ils ont été mignons.
C'est vrai.
Oui, après, il faut s'adapter. C'est ça. C'est, des fois, ils ont pas envie, des fois, ils ont envie de rentrer.
Vous avez pas les petites stratégies
je te donne ça, tu fais ça.
Oh là 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 là.
Je veux dire, il y a une complicité. Il n'y a pas une complicité.
T'auras un bonbon cité.
On peut pas les duper, les enfants.
Ce dont on a besoin d'eux, on leur explique l'enjeu de la situation, de ce qui doit se jouer. Et puis on les amène petit à petit.
Oui, mais sans filmer, j'imagine, dans l'ordre, pour toutes les raisons de décor.
On a tourné un peu dans l'ordre chronologique.
Ah, quand même,
mais,
d'accord. C'est rare au cinéma.
Petit à petit, ils étaient moins farouches. Petit à petit, ils faisaient de plus en plus confiance. Et puis petit à petit, surtout, ils ont pris plaisir à jouer. Quoi. Ouais. Et tout d'un coup, dès lors qu'ils ont compris que il y avait du plaisir aussi à jouer une forme de tristesse ou une forme de chagrin ou d'être vraiment dans le jeu de on est à la piscine et on souffle les bougies et tout est cool et c'est les vacances. Et ben en fait ils ont ça a pris.
À vos côtés,
c'est
donc
mystérieux, hein.
Lies Salem, qui est bouleversant aussi de justesse et de talent, avec les enfants, Gabriel Pavy, Idriss Laurentin Khalifi, Basile Violette, il y a également Jean Willem, Florence Muller, et puis moi je ferai un big up aussi à Karima Amarouche, qui est dans le film et qui était venue chanter dans Taratata et qui avait déchiré, notamment j'ai un souvenir moi avec Zebda où elle avait mis le feu au plateau. La vraie famille, un film signé Fabien Gorgeat. On n'a pas aussi souligner suffisamment la qualité de ce réalisateur, de son écriture et donc de cette direction d'acteur aussi, parce qu'il y a un moment où, quand l'histoire est bonne, quand les acteurs sont bons, il faut quand même se dire que il est pas mauvais celui qui mène tout ça et qui catalyse toute cette énergie et ce talent.
Et Fabien, on recevra Gorgeat la semaine prochaine avec Clotilde M, parce qu'en ce moment Fabien Gorgeat signe la mise en scène d'une très belle pièce de théâtre, Stallone, au théâtre du Petit Saint-Martin.
Parfait, voici Monsieur Tanguy Passion.
Alors mine de rien, la campagne électorale se poursuit. Hier, Valérie Pécresse a obtenu le soutien d'Edouard Balladur. Ils ont fait une photo l'un à côté de l'autre. On aurait dit qu'elle visitait le musée Grévin. Hein, il a le teint qui ressemble tellement à une toile cirée que Pécresse a commencé à passer une éponge dessus. Enfin, c'était assez gênant. Christiane Taubira, elle, a annoncé qu'il irait jusqu'au bout. Alors on ne sait pas de quoi. Moi, je pense qu'elle a commencé un puzzle, 1000 pièces. Jean Lassalle a annoncé qu'il avait réuni ses 500 signatures. Alors il se peut qu'il n'en ait que 250 parce que la plupart du temps, à cause de l'alcool, donc il voit double. Hein, lui, les maires l'adorent parce que durant toute sa carrière, il a bu un coup avec chacun au moins une fois. C'est la star du terroir. Quand il passe près d'un sous-bois, il y a des lapins qui twerk. Enfin, Éric Zemmour a fêté l'arrivée du 100 000 unième adhérent à son parti Reconquête. Et c'est une adhérente, Jamila, à qui il a remis en personne sa carte. Une Jamila symbole, une femme double symbole. Si en plus, elle lui avait dit, mais un jour sur deux, en fait, je suis un homme, Amadou. Zemmour devenait en plus le candidat du wokisme. Alors, Jamila a expliqué son parcours. Hein. Elle a commencé à l'UDF, puis a adhéré à l'UMP, elle est restée quand c'est devenu LR, et là, elle est à Reconquête. En fait, à chaque fois, elle va un peu plus vers la droite. Elle va finir par tourner sur elle-même. Hein, une fois dans son jardin, il y aura un trou et au fond de Jamila qui crie, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Alors, je sais qu'ici, à la bande originale, vous n'êtes pas très joyeux quand je parle de Zemmour, parce que vous êtes plus branché Marine Le Pen. Donc, je vais pas vous parler d'Éric Zemmour, mais d'Éric Zemmour. Parce qu'Éric Zemmour, le politique, a un homonyme dans le Sud, qui est coiffeur. Toi-même, tu le sais, auditeur trop bronzé dont la femme ose le bikini panthère. Des salons Zemmour, il y en a à Monaco, devant lequel les princes Albert passent en criant « c'est une provocation ». Il y en a à Saint-Laurent-du-Var, Narbonne, à Nice. Enfin, il s'est fait une belle petite franchise. Et hier, j'étais sur le site de Nice Matin, parce que comme tous les gens qui vieillissent, je commence à penser à habiter au soleil, parce que la vie à Paris, du point de vue luminosité, n'a pas de sens. Hein, pour un type comme Houellebecq, ça va, parce qu'il se nourrit de la grisaille. Un rat mort, pour lui, c'est 20 pages de roman. Mais Pépita, qui était toute sympa, je pense que le lendemain de l'arrêt de pyramide, elle claquait tout dans l'achat d'un F2 à Cannes. Et dans Nice Matin, que lis-je ? La vitrine du coiffeur Éric Zemmour vandalisé à Nice. Parce qu'il y a des gens qui pensent sincèrement qu'Éric Zemmour, le candidat, a ouvert des salons de coiffure en guise de plan B au cas où il se planterait à l'élection. Ces gens peuvent être définis par le terme générique de con. Donc la porte du salon Zemmour du Vieux-Nice a été cassée. Le gérant, qui s'appelle Francesco Borgia, je crois qu'il y a eu une série sur lui et sa femme il y a quelques années avant, dit qu'il subit des agressions verbales. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent devant le salon et crient « raciste !» Enfin, que des quiproquos. Il faut savoir que Stéphane Ravier du Rassemblement National a rejoint Zemmour, mais il a fait 5 salons avant de trouver le vrai Éric Zemmour. Au bout du deuxième, il n'y avait plus rien à couper sur lui. Ils lui ont fait le pubis en disant, on ne va pas vous prendre un forfait coupe et coiffage à 40 euros pour rien. Bon, résultat, Francesco Borgia annonce qu'il retire toutes les marques extérieures comportant l'appellation du salon. Il n'y a plus écrit Éric Zemmour. En fait, pour entrer, il faut donner un code qui est, j'ai un cheveu sur la langue que j'ai coupé en 4. Bon, là, on vérifie que vous n'êtes pas un punk à chien antifa. On vous présente un berger allemand. Si vous dites, je m'en fous de lui, et ben vous vous pouvez entrer. Alors après, je crois que l'alternative à la violence est la réflexion. Sur les salons, il y a écrit Éric Zemmour, beauté, prestige. Est-ce que ça vous paraît fidèle à ce qu'est Éric Zemmour, le politique? Je veux dire, il a des traits tirés et 27 cheveux. De même, si vous voyez un kebab dont l'enseigne dit aux délices du Bosphore by Bruno Retailleau, il y a peu de chances que ce soit le Bruno Retailleau des LR qui soit à la cuisson des frites. Je veux dire, c'est le problème de l'homonymie. Quand on a élu Hollande, personne n'a pensé deux minutes à essayer de lui acheter du shit. Bon, donc, surtout qu'Éric Zemmour, le coiffeur, n'a pas du tout l'intention de changer de blase. Il va pas s'appeler Anne Hidalgo juste pour être sûr de pas avoir le même nom qu'une personnalité politique d'envergure. Hein, ses salons sont là depuis longtemps. Un article du site de Marie-Claire dit qu'on lui doit les relooking capillaires de Sophie Duez et Victoria Schiffstedt. Wow. Ah, quand même, hein, mais si ça se trouve, il a aussi fait des trucs récemment. Bon, alors, hier, Éric Zemmour, le candidat, a tweeté un message de soutien à Éric Zemmour, le coiffeur. Alors, tout en mesure, comme d'habitude, il écrit « Soutien à mon homonyme contre la racaille hein, », ce qui fait que Zemmour, le coiffeur, va encore avoir plus de soucis parce qu'il va être assimilé à Zemmour 2, d'autant qu'à tous les coups, bon, un jour, on va découvrir sur la vidéosurveillance de la ville qu'en fait, c'est Camille Alban et Jean-Luc Dubois des salons de chip qui ont défoncé le salon Zemmour. Hein, bon. Éric Zemmour a d'ailleurs rappelé qu'il n'avait pas de lien de parenté avec Éric Zemmour. En fait, c'est le hasard de l'homonymie. Un jour, il y a peut-être un baron de la drogue panaméen, Guillermo Guise, qui va tomber sur YouTube sur les vidéos de Guillermo Guise et va dire Hiro des Cabron, jamais un Guise n'a fait rire, nous les Guises, on fout la sboulasse à la population, la chocotesse, et il va venir ici s'en prendre à Guillermo qui n'est que sympathie et beauté troublante. Enfin, je voudrais juste dire un hommage ici à notre collègue Julie Pietri, un reporter à la rédaction internationale de Radio France c'est et vrai. Qui en bio sur Twitter écrit pas la chanteuse, l'autre. Donc je trouve ça très drôle et je l'embrasse.
Merci Tanguy Pastureau, le vrai.
Oui.
Et la semaine prochaine, Tanguy, on se retrouve à Sanary-sur-Mer et aussi à Marseille.
Merci.
La vraie famille, le film a été doublement récompensé au Festival du film francophone d'Angoulême en août dernier, en recevant le Valois du jury et le Valois de la meilleure actrice pour Mélanie Thierry. Ce film, je le rappelle, raconte l'histoire d'un couple constitué et joué par Mélanie Thierry et Eliès Salem, avec les deux petits garçons qui accueillent Simon, un enfant placé chez eux par l'assistance sociale. Depuis son plus jeune âge, il a quelques mois quand il arrive, et lorsqu'il a 6-7 ans, le père de Simon, interprété par Félix Moati, exprime le désir de récupérer la garde de son fils à juste titre, d'après les organismes sociaux, d'après le juge, et même d'après, d'ailleurs, les parents de la famille d'accueil. Ils se disent, après tout, oui, c'est normal. Est-ce qu'il est prêt? Toujours le souci de protection. Est-ce qu'il sera bien avec lui? Est-ce qu'il serait pas mieux avec nous? Il y a quand même, dès le début, mais Thierry, la question, pas de la compétition en termes d'éducation, mais pas loin, quoi, qui se pose immédiatement. Je crois que la phrase est carrément dite, quoi. Est-ce qu'il sera vraiment mieux avec lui qu'avec nous?
Elle le dit. Ouais, je crois qu'elle le dit.
Ouais. Elle met en doute.
Mais elle en doute.
En tout cas, si elle le formule pas, elle l'a dans la tête.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Je sais pas quoi vous dire là. Attendez,
Mais c'est que cette il peut pas y avoir de compétition aussi en amour. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Brigitte lorsqu'elle est venue à ce micro et que certaines familles d'accueil deviennent presque des parrains ou des marraines en gardant le fil. Là, c'est même pas envisageable vu la tension qu'il y a entre les deux.
Bah, c'est tellement brutal qu'elle a pas le temps de voir se faire à l'idée que il est déjà presque parti, quoi. Mmh. Donc, ça va vite en besogne.
Elle aime pas vraiment le papa.
Du jour au lendemain, ouais. Le gars, il réapparaît, il est prêt et on va à nouveau devoir infliger au gosse une rupture comme ça où tout d'un coup, on peut pas faire les choses autrement, quoi. C'est simplement qu'en fait, c'est le coup près quand il tombe, il est radical, quoi. Donc, je comprends que ça provoque un séisme au sein de la famille.
Cette décision est injuste.
Mais cette maman n'a pas compris, n'a pas accepté qu'elle n'était qu'une maman temporaire.
Elle a oublié.
comme elle oublie de prévenir l'assistante sociale, c'est ça. C'est un oubli. C'est pas un mensonge, c'est juste.
C'est pour le bien de l'enfant.
C'est ça. D'autres événements. Oui. Ce film sort demain. Je le rappelle au cinéma, signé Fabien Gorgeard. D'autres événements dans la culture, Leïla.
Quel sera le nouveau sujet d'un parc à thème qui va ouvrir au Japon,
Harry
d'après
Potter.
Vous
non. Suicide Squad.
Non plus.
Squid Game.
Squid...
Ça, ouais. Ouais. Non. Pardon. Ouais, ouais. T'as fait quoi, Suicide Squad?
Un parc à thème au Japon.
Les Simpsons.
Non.
Les mangas.
Ah oui, lesquels?
Ah, One Piece.
Non, plus globalement, plus globalement.
Naruto, Dragon Ball, les mangas.
Les Miyazaki, tout simplement. Ah, okay. Le studio Ghibli, en fait, va y avoir un véritable gros centre d'attraction, un grand parc à thème qui devrait ouvrir ses portes prochainement.
Où ça
Au Japon, c'est vraiment une culture là-bas qui est reine. Est-ce que faire des voix pour des films d'animation, est-ce que c'est quelque chose qui dans le futur proche pourrait vous intéresser?
Moi, j'adore.
Ah. Et vous l'avez jamais fait?
Bah, j'ai passé une fois un casting pour... tu t'en souviens? Ah bah, mais on se connaissait pas encore.
Ah bon, je m'en souviens pas alors.
le mec, il tient 10 secondes.
C'est bizarre, avec les émotions.
Il rend tout.
Ah oui,
ça, le truc avec les émotions.
Ah oui,
c'était génial. C'était très bien ça.
C'était quoi?
Vice versa,
ouais. J'avais passé un casting de voix là-dessus. Bon, bah ça j'ai échoué. Il m'a plus jamais rappelé le gars qui s'occupe des...
Très bonne vanne de Félix qui n'a pas été soulignée.
T'as entendu, t'as joué la colère.
Ah non, j'étais partie pour Tristesse.
Ah bon.
Tristesse, c'était pour tenter... Et puis Marie-Lou Berry était bien meilleure que moi, quoi.
Mais je suis d'accord, on va les rappeler, Pixar. Alors pour le 2...
Il y a Mélanie.
On en a une pour la colère.
Et vous, Félix,
écoutez en replay juste l'émission.
Et vous, Félix, en voix, justement, en voix.
Bah moi, je fais que des documentaires extrêmement solennels, genre sur la commune.
Mais oui.
Où j'ai fait des voix de documentaires.
Et pourquoi documentaires?
Mais je sais pas. On m'a.
On pense à vous pour ça.
Pour des trucs d'animation, on n'a jamais pensé à moi.
Pourquoi ça vous
amuse? Avoir une voix grave.
Ouais, ou une voix transformable que vous pouvez.
J'ai joué une femme en plus dans un film. Je prenais une voix. Bon, mais j'ai jamais... Non, c'est vrai qu'on ne m'a jamais proposé.
Ben voilà, ça fait deux possibilités, ouais. Tous les deux, vous êtes attirés. Vous regardez quand même des dessins animés, des films d'animation, vous allez en voir éventuellement en salle ou pas? Ou c'est vraiment quelque chose d'assez loin de votre culture au quotidien?
Non, mais j'emmène les gosses.
Voilà, les gosses.
Les films, quoi.
Ouais, mais pour vous, il n'y a pas un intérêt personnel là-dessus?
Moi, non.
Ouais. Et vous, Félix? Même chose.
Pas trop non plus. Ouais, ouais.
Et même quand vous étiez enfant, il n'y a aucun dessin animé qui a marqué votre...
Moi, je regardais Les Sopranos quand j'étais petit, donc forcément.
Wow, okay,
bah ouais, parce que j'ai un grand frère, une grande sœur, j'étais petit, je me pliais à leur désir. Quoi.
On va faire un signalement quand même, parce que Les Sopranos...
Brigitte va...
Oui, c'est ça. Nouvelle question, on va parler des Belges, vous le savez, n'est-ce pas, Guy? Vous adorez la bande dessinée au point de mettre Tintin et Lucky Luke...
Sur les passeports.
Bravo, absolument. Sur les passeports, Lucky Luke, Tintin font leur apparition.
Vous allez tous avoir la même tête.
Tout ça pour évoquer le monde de la bande dessinée. Est-ce que vous êtes des lecteurs de bande dessinée? Récemment, une étude est sortie disant que vraiment, en termes de vente en librairie, il y a vraiment plus de... Je sais pas...
C'est énorme.
Plus de 60%, en fait.
Il y a ça et la littérature jeunesse qui marche en France, quoi.
Et les mangas, bien entendu, si on mélange tout ça. Est-ce que vous êtes des consommateurs de bande dessinée? Est-ce que vous êtes un jour rentré dans ce monde-là?
Pas trop, non.
Vraiment pas?
Non.
Même chose pour vous, Mélanie?
Moi, pas du tout.
C'est vrai, non. Parce que...
J'ai du mal à lire les bulles, j'ai du mal à comprendre. J'ai pas le mode d'emploi de la BD. T'as dit quoi, là?
Je disais regarder une image et lire en même temps.
T'as dit quoi?
C'est compliqué.
C'est
long. Mais moi, je propose que Félix Moati vienne faire sniper dans l'émission d'invité. Tu m'as besoin quoi? Tu sais quoi, Félix? Tu viens dans un, t'écoutes et puis t'envoies des vannes comme ça.
Je peux très bien, là.
Mais oui, je vois que tu peux très bien.
C'est de l'agression permanente, quoi. C'est gratuit, c'est comme ça que ça fonctionne entre vous. Mais même la BD documentaire, puisqu'on parle de documentaire, même ça, c'est un genre qui ne vous intéresse pas plus que ça? Vous avez jamais plongé dedans pour...
Non, c'est vrai, ouais. Que...
Vincent Lacoste, Riyad Satou.
Ah, merci.
Non mais là, parce que il y a beaucoup d'affection.
C'est l'exception.
Il y a beaucoup d'affection qui rentre en compte.
Simplement pour cette raison-là.
Mais simplement pour
cette affectif, raison-là. C'est affectif.
Dans vos actualités, à part La Vraie Famille, ce film qui sort demain, réalisé par Fabien Gorgeard, vous êtes à l'affiche d'un... Vous serez à l'affiche d'un prochain film, Mélanie. Vous êtes en plein tournage. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle?
Dans ma vie professionnelle?
S'il vous plaît, oui.
Pas grand-chose, là.
Ah bon?
Ah bon?
Non, j'apprends une langue étrangère.
Mmh. Ben donc ça, c'est pour un tournage. Ah ouais, d'accord.
Je sais
de
pas
l'amour.
Quand est-ce qu'on va le tourner, mais
et quelle langue?
Je suis dans l'apprentissage.
C'est quelle langue?
J'apprends l'ukrainien.
Ah ouais.
Et c'est là où vous retrouvez Emmanuel Finkiel.
Oui, si tout va bien, ouais.
Et ça ressemble à quoi?
Pourquoi vous voulez pas le dire?
Hein?
Pourquoi vous voulez pas le dire?
Oh, parce que moi j'aime bien prendre des pincettes quand même. Ouais. J'ai toujours peur. Je suis
je crains toujours.
Et la sonorité de l'ukrainien, là, ça donne
quoi? On n'est pas loin du russe, hein, de toute façon.
Je dis ça, je sais pas.
Mais... On n'est pas loin du russe.
Okay, on n'est pas loin du russe. Un mot ou deux?
Non, je ne suis pas capable.
Ah ouais, pas encore.
Bah si, j'en suis capable, mais pas d'abord. Voilà.
C'est un rôle de quoi de... C'est romantique, c'est...
Non, on n'y est pas, hein, le tournage, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va le commencer.
Non, mais le style du film.
C'est une adaptation d'un livre de Aaron Appelfeld, où c'est l'histoire du petit gosse, entre autres Aaron Appelfeld, qui s'échappe du ghetto et qui se fait recueillir par une prostituée qui va le planquer dans son placard. Voilà, c'est magnifique, sublime.
Quant à vous, Félix Moati, vous serez à l'affiche, ça sera au mois de juin, d'après la date qu'on nous a donnée, du
22 juin.
Du goût et des couleurs. Les goûts et les couleurs.
Les goûts et les couleurs, ouais.
C'est ça, de Michel Leclerc.
De Michel Leclerc, ouais, exactement.
Vous faites quoi dans le film? Quel personnage?
C'est avec Rebecca Marder, c'est une comédie romantique et c'est autour de...
C'est une chanteuse qui enregistre un album, c'est
ça? Une chanteuse qui enregistre un album et qui hérite, enfin, et qui se veut être l'héritière d'une chanteuse plus âgée qui décède brutalement. Et moi, je suis l'ayant droit de cette chanteuse, alors que je n'ai pas grand chose à voir avec elle. Et c'est notre histoire d'amour entre Rebecca et moi, et qui se cogne inéluctablement aux différences de classe et de goût et d'esthétique. C'est un peu le goût des autres, c'est un peu autour du thème du goût des autres. Et j'ai vu le film là il y a très peu de temps et je trouve magnifique.
Et l'envie de réaliser j'imagine, n'est pas partie vous. Donc vous êtes à quel stade de l'écriture, de la proposition à des producteurs ou
Je vais continuer à travailler avec le producteur de mon premier film, qui va lire très prochainement une toute première version dialoguée de ce qui serait mon deuxième film. Donc.
Et qui serait dans quel genre? C'est une comédie, un policier, un drame?
Parfois, je pense faire une comédie. En fait, je découvre que le film est complètement dépressif. quand je veux mettre un peu de mon rapport très grave au monde, j'ai l'impression que c'est très drôle. Donc maintenant, je ne dis plus rien.
Mélanie, vous avez quel rapport, vous, avec l'écriture, avec l'envie d'être auteur d'un film?
Ça, je ne sais pas faire.
Mais comment vous le savez que vous ne savez pas?
Ah, parce que je crois que je ne sais pas.
D'accord, ok. Je voulais pas vous
entendre. Non, mais je laisse le soin de...
À ceux qui savent. Et y a-t-il un réalisateur avec lequel vous rêvez de tourner?
Ah, j'arrive pas à penser comme ça.
Ah, vous pensez... C'est l'histoire d'abord avant le réalisateur?
Non, c'est pas ça. C'est que j'ai besoin qu'on y croie pour moi. Sinon, moi, j'ai du mal à y croire. Donc, j'ose pas, je peux pas... J'arrive pas à penser comme ça.
D'accord. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, déjà désolé pour le psy de Félix Moati qui m'a appelé à la pause, un homme en larmes. Il m'a appelé pour me dire que Nagui avait salopé 10 ans de boulot en confondant les Moati père et fils. En revanche, juste après, j'ai eu le banquier du psy. Alors lui, il est aux anges, il est ravi. Désolé pour tous les coiffeurs qui ne s'appellent pas Zemmour et qui sont furieux de ne pas avoir profité de la honteuse promotion déroulée par Tanguy Pastureau. En même temps, les amis non Zemmour, si on fait deux colonnes pour lister à droite les avantages à s'appeler Zemmour et à gauche les inconvénients, croyez-moi, je pense que vous êtes gagnants. Désolé enfin pour nos auditeurs pro-russes, donc durs niveau émotionnel et qui ont été écœurés par tout l'amour qui débordait de l'émission de ce matin. Et les enfants ni, la famille gna. Heureusement, demain on revient aux fondamentaux, on va parler de la mort au bout du couloir, la vie en EHPAD, avec le sémillant Kev Adams et la merveilleuse Liliane Rovert.
J'ai pas parlé d'En Thérapie, pardon, Mélanie, est-ce que vous êtes à nouveau dans la deuxième saison d'En Thérapie?
Ah bah non, on change de patient.
Tout le monde change? Oui, sauf
on
le psy, c'est ça?
On garde le psy, voilà, bah oui, sinon on tourne un peu en rond avec les mêmes histoires, hein. Non, il faut un peu de...
Parce que vous avez tellement marqué dans cette série que...
Vous voulez vous revoir,
voilà.
Mais elle est prête, hein, je crois que ça sort bientôt.
Ouais. Évidemment. Merci mille fois en tout cas, Félix Moati, Mélanie Thierry, et bravo et pour votre interprétation et pour la réalisation de ce film à Fabien Gorjard avec Lies Salem que vous saluerez également pour nous ainsi que les enfants. Si vous avez une projection ce soir,
on les voit ce soir.
Ah bah très bien, voilà, saluez-les pour nous. Idriss Laurentin qui a gagné quand même un prénom à nouveau dans cette émission et je m'en excuse. Basile Violette et l'excellent Gabriel Pavie qui est tout simplement bouleversant. Il y a 2-3 scènes. Si vous craquez pas, c'est que vous n'avez pas votre place sur cette...
C'est dur, là, ça va être dur.
C'est bien,
Nagui, venez bien.
Prends-moi la main, Nagui, Allez, crevez.
Lancez-lui un piano.
Non, mais voilà, voyez donc ce film, et puis on en parle plus tard.
Si vous craquez pas, c'est que vous n'êtes pas humain, c'est tout.
Mais on peut avoir pour autant sa place sur cette terre.
Je sais pas.
Alors, c'est beaucoup pleuré la veille, quoi, et que t'en as plus, c'est ça, c'est possible aussi.
Voilà. Merci, monsieur Tolérance.
Voilà. Monsieur... À qui tu parles?